Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Amoureux de voyage et de l'ailleurs, Étienne a fait le choix de l'expatriation. Il vit avec sa femme vietnamienne et ses enfants dans la superbe ville Doi An au Vietnam. D'abord consultant dans le vin, il a choisi de laisser la place à sa passion de l'image et de la photographie. Je l'ai rencontré lors d'un phototour qu'il organise dans les alentours Doi An. Étienne déborde d'énergie et fait partie de ceux qui vivent intensément. Il partage avec enthousiasme ses techniques photographiques et ses plus beaux spots. Dans cette émission de Regarde ailleurs, je vous invite à rencontrer Étienne que j'ai enregistré assis dans sa galerie entouré par ses images inspirantes.
Je pense que ce qui m'a fait débuter les voyages et l'envie de voyager, ça vient d'une part par, je pense, mon envie de pas rester en France, mon envie de voir quelque chose de différent, de voir quelque chose de différent pour ma vie. Et mes grands-parents, les parents de mon père qui voyageaient énormément en fait, une fois qu'ils avaient pris leur retraite. Et qui, tous les ans, nous montraient leurs photos de voyage. Donc, ils revenaient de Thaïlande avec des photos. Mon grand-père était adoré faire des photos, donc il prenait plein de photos. Et tous les ans, on regardait leurs photos de voyage. Et ça, vraiment, ça me donnait envie. C'était différent, c'était exotique. C'était plein de couleurs. Ça me donnait vraiment envie d'aller voir ailleurs. Donc, depuis que je suis adolescent, je me suis toujours dit que je ne vivrais pas en Europe, voire en Occident. Je voulais vraiment quelque chose de différent pour ma vie. Et pour moi, dans ma tête, qu'est-ce qui était différent? C'était l'Asie. Donc l'Asie, un peu la vision idyllique de l'Asie, c'est zen, c'est bouddhiste, c'est relax, et puis c'est roots quoi, c'est le bordel, c'est dégueulasse, etc. Mais c'est ça justement qui était différent de la France. Donc j'avais toujours cette envie de partir. Donc j'ai commencé à voyager un peu quand j'étais jeune, faire des petits trips en Angleterre en tant qu'accompagnateur. J'ai étudié pendant que j'étais à l'université, j'ai pu faire un an d'études en Allemagne. Donc ça a vraiment passé un an à l'étranger. Je suis rentré en France. Après ça, j'avais envie qu'une chose, c'était de repartir, quoi.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi de quitter la France? Tu avais cette envie de partir parce que, pour ne pas rester là-bas. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à identifier ce qui te rebute en France ou ce que tu as voulu fuir?
Je pense pas que ce soit la France en elle-même. Bon, j'adore la France, hein, forcément. Je viens d'Avignon, enfin Pont-Saint-Esprit, dans le sud. On vit bien là-bas, hein. On mange bien, on boit bien, il fait beau. C'est la mentalité en France, c'est la mentalité, mais aussi qui est la même partout dans les pays occidentaux. C'est le fait que quand j'étais adolescent et quand un conseiller en éducation était venu nous voir au lycée, il nous avait dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, réfléchissez. Et que je me suis dit, tiens, est-ce que je vais passer ma vie à faire du 8h-5h dans les bouchons tous les matins, dans les bouchons tous les après-midi, rentrer à la maison, prendre une douche, dîner, me mettre au lit et rebelote le lendemain. Ça m'a déprimé, quoi. Ça m'a déprimé, refaire la même chose tout le temps, toute la journée. Pour moi, ma vie allait être différente. J'allais faire des choses différentes tous les jours. J'allais être à l'extérieur. J'allais rencontrer des gens tout le temps, différents, faire des choses. J'avais pas envie de tomber dans une routine. Voilà, c'était surtout ça. Et la mentalité en France, quand on parle de ça, je pense que c'est pas mal lié à la France aussi, mais bon, c'est un peu partout pareil en Europe. Quand on parle, quand on est un petit peu entrepreneur, tout est un peu difficile. Voilà, non, fais pas ça, ça va foirer, hein, ça va te coûter trop cher d'essayer, tu pourras pas y arriver, et puis trop de lois qui t'empêchent de faire ça, ça va prendre trop de temps, ça va prendre trop d'argent, et puis si ça marche pas, ça risque d'être, les gens sont très pessimistes en France. Alors qu'ici en Asie, mais c'est complètement l'inverse. Ici en Asie, on va monter un petit business pour trois fois rien, les gens ils sont là, super, ça a marché, l'endroit est dynamique, l'Asie c'est très dynamique, donc si on bosse, les choses se passent. Et donc voilà, c'était ça qui m'a vraiment donné l'envie de partir, mais aussi l'envie d'exotisme.
Et donc tu savais déjà que c'était l'Asie. Toi, tes yeux étaient rivés vers le continent asiatique. T'as pas eu d'idéologie ou de rêve africain, de rêve sud-américain?
Mes grands-parents allaient beaucoup en Asie, donc je voyais beaucoup de photos d'Asie. Il y a aussi, c'est un peu la blague dans la famille. Je suis né avec une tache dans le dos qui est restée environ 6 mois.
La tâche de Gengis Khan.
La tâche de Gengis Khan. Voilà. Donc pour moi, dans ma tête, j'étais gamin, je suis mongol, je suis asiatique, à moitié asiatique. Ma grand-mère, On sait pas d'où ça vient. On a fait des recherches. Mon père a fait des recherches. On sait pas d'où ça vient. Ma grand-mère a des yeux assez bridés. Et comme ils disent, elle a les doigts très flexibles comme les Asiatiques. Enfin bref, on sait qu'il y a quelque chose d'asiatique dans la famille du côté de mon père. Et moi, quand j'étais petit, j'avais les yeux. Les gens me disaient que j'avais les yeux un peu bridés. Aujourd'hui, j'ai pas du tout la tête d'un Asiatique, mais donc il y avait ça aussi. Il y avait ça. Pour moi, j'étais Asiatique. Il fallait que je retourne à mes bases. Donc pour moi, c'était toute l'Asie. Hein. J'aurais pu être. J'étais très attiré par le Japon. Après, quand j'avais 10 ans, 15 ans, tout le monde parlait de la Chine. C'était la Chine. Donc pour moi, ça aurait pu être toute l'Asie.
Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves alors au Vietnam ?
Eh ben, après mes études, donc j'ai étudié commerce international. Parce que pour moi, commerce, c'était la meilleure manière de voyager.
Et donc c'était déjà dans l'idée de voyager. Tu avais choisi tes études en fonction de la vie que tu voulais t'offrir derrière.
Exactement. J'ai jamais été un matheux de toute façon. Pour moi, le commerce, c'était commerce. On rencontre des gens, on sort, on voit des gens différents et puis on voyage. Pour moi, c'était commerce international, voyager. Donc, j'ai étudié le commerce. Et quand j'ai fini mes études, en fait, la seule chose que j'ai faite, c'est... Après, j'ai cherché mon stage de fin d'études. Je voulais le trouver en Asie. Donc, j'ai passé 6 mois à envoyer des emails partout en Asie. Hein. En Thaïlande, en Malaisie, en Inde, en Chine, au Japon, pour trouver un stage de fin d'année en Asie. Et j'ai une boîte française d'ailleurs, mais qui est basée en Indochine, qui m'a répondu comme quoi il cherchait un directeur des ventes pour vendre du vin au Vietnam, basé à Hoi An, directeur pour le centre Vietnam. J'ai fait une recherche Hoi An sur internet, j'ai vu les photos de la plage et des palmiers et j'ai dit bon, j'arrive. Voilà, comme ça.
Donc quand tu es venu, est-ce que c'était ton premier voyage, ça, de quitter l'Europe pour venir en Asie? C'était la première fois que tu mettais les pieds en Asie?
C'était la première fois. J'avais beaucoup voyagé en Europe de l'Est, jamais en Asie. Jamais en Asie. J'étais allé en Égypte quand j'étais gamin avec mes grands-parents, en Guadeloupe avec un ami, mais vraiment en Asie, jamais. Je suis arrivé à Hanoï, donc 2007, le 8 mars 2007. Je suis arrivé à Hanoï et donc j'avais un chauffeur qui m'attendait là-bas. Et on a conduit donc de l'aéroport de Hanoï jusqu'à la ville de Hanoï. Donc aujourd'hui, ils ont une nouvelle route, mais avant, ça prenait environ une heure et la route est vraiment pourrie. C'est-à-dire, c'est une route pleine de bouchons. Des énormes panneaux publicitaires au bord de la route qui vendent du béton ou des tiges en aluminium et des rizières et des buffles à côté de ça. Alors là, c'est bon. J'étais conquis. C'était, pour moi, c'était encore mieux que ce que j'avais en tête. C'était le bordel. C'était un mix de modernité, de tradition. C'est-à-dire, on était sur la route avec ce bordel, mais à 5 mètres de nous, il y avait les rizières avec les buffles. Pour moi, c'était paradis, quoi.
Thank you. Donc t'es arrivé en Asie avec ce cadre finalement qui est une chose pas mal quoi. T'es arrivé, tu savais que t'allais avoir un boulot, t'es venu sur Oyan, tu t'es installé ici, mais aujourd'hui je te rends compte dans un cadre complètement différent. Oyan au Caire, ça, on est encore là, mais autour de moi plein de photos, on est dans ta galerie et je vois pas de bouteille de vin, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors ce qui s'est passé c'est que bon, c'était, je me suis régalé, j'ai passé un an et demi à Oyan, centre Vietnam, donc à bosser pour cette boîte. C'était une super expérience parce qu'on bosse avec les hôtels, les restaurants, et puis la plupart des gens qui habitent ici, la plupart des expatriés qui habitent ici bossent dans l'hôtellerie. Donc je connaissais un peu tout le monde, j'avais mon petit groupe d'amis, la vie était pas mal. Mais pour moi, ma vie, ça allait pas, j'allais pas faire ça toute ma vie. Ce que je voulais faire, c'était d'arriver, de vivre dans plusieurs pays d'Asie pour trouver la place là où je serais le mieux et de faire des boulots différents. Donc pour moi, j'allais vraiment essayer plein de trucs quoi, avant de me caler. Mais après 6 mois à Oyan, j'ai acheté un appareil photo parce que l'endroit était joli, parce que pour moi, c'était vraiment génial. Puis je voulais partager ça avec ma famille, mes amis en France. Donc il y avait Facebook, c'était le début de Facebook à l'époque. Et donc pour moi, je voulais acheter un appareil photo. Donc au lieu d'acheter un petit appareil photo, un petit point and shoot, j'ai acheté un réflexe de base, un entrée de gamme, en me disant je vais essayer de faire un truc un peu plus joli pour montrer à la famille. Et puis je finissais le boulot, des fois un petit peu tôt, j'allais faire le coucher du soleil dans les rizières, et puis je rentrais à la maison, et puis je mettais 2-3 photos sur Facebook. Et puis bon, c'est les amis, c'est la famille, ils sont gentils avec nous, hein, ils vont pas nous vexer. Donc tout le monde, oh c'est joli, c'est super, oh, t'as un bon œil, tu devrais continuer. Bon, en essayant d'être gentil, mais ça quand même, c'est ça qui m'a fait, tiens, demain matin j'y retourne, tiens, je vais me lever à 4h du mat, je vais y retourner, à voir ce que ça donne. Et je suis tombé dedans. Et donc, à partir de là, j'ai fait que de la photo. Donc, j'ai passé un an et demi après ça, sans boulot, à faire de la photo. J'avais mon petit groupe d'amis à Oyan. C'était vraiment la vie, la super vie. J'avais pas une thune. Je vivais avec $1 par jour. Mais c'était génial, quoi. Je me suis débarrassé de toutes les choses dont on n'a pas vraiment besoin. Tous ces trucs qu'on accumule. On se dit, ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin du dernier téléphone, et je me suis rendu compte que ça vraiment c'est inutile. Et j'étais avec les locaux la journée à faire des photos, j'étais avec mon groupe d'amis le soir à boire une bière sur la plage et faire de la photo. Et ça vraiment, ça m'a appris énormément. À l'époque, c'était assez stressant de pas savoir ce que j'allais faire le lendemain. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment bénéficié de cette expérience.
Et à cette époque-là, donc quand tu es en mode photo à Oyan, tu n'as plus ton boulot. Est-ce que tu t'es posé la question d'aller peut-être dans un autre pays asiatique, refaire ta vie ailleurs, ou tu voulais rester vraiment ici à Oyan ou rentrer en France? Comment ça s'est passé dans ta tête?
Je pense que Oyan avait déjà conquis mon cœur à cette époque-là. Donc je filais des petits coups de main à droite à gauche. J'avais un peu la pression, mon père qui m'appelait une fois de temps en temps, tu fais quoi de ta vie? Il serait temps que tu fasses quelque chose, hein, parce que t'as plus 20 ans, donc pense à ce que tu vas faire plus tard. Donc j'avais dans l'idée, je commençais à chercher, j'avais pas mal d'amis, donc je commençais un peu à parler à droite à gauche, comme quoi je cherchais un boulot. J'aimais bien la vente, parce que ça me permettait de voyager, de rencontrer du monde. Donc à cette époque-là, je cherchais quand même un boulot, et puis il y a un moment quand même, j'ai arrêté, j'ai rencontré ma femme à l'époque, donc j'habitais chez elle à Danang, donc j'avais pas une thune, j'habitais chez ma copine à Danang. Et là, vraiment, à cette époque, c'était donc après un an et demi après, j'étais vraiment en mode chercher un boulot. Et donc, j'avais trouvé un boulot pour une grosse entreprise allemande qui est basée sur la planète, on va pas citer de nom, et qui cherchait un vendeur directeur des ventes dans le centre Vietnam. Donc, j'ai fait un interview avec eux à Hanoï, Saigon, ils m'ont fait voyager pour faire les interviews. Ils étaient très contents, etc. Ils allaient m'embaucher. Jusqu'à 2 semaines avant de signer le contrat, ils m'envoient un email et ils me disent « Bon, bah, le salaire qu'on t'avait proposé, on va le diviser par 2 ». Et là, j'étais déprimé parce que c'était ma porte de sortie. C'était ma manière de rester ici. Mais c'était aussi un boulot où j'aurais bossé 12 heures par jour dans un bureau à manager 50 staff. J'aurais un peu perdu ma liberté d'être en Asie, en fait. Et aujourd'hui, je leur dis merci, quoi. Merci beaucoup de m'avoir divisé mon salaire par 2. Sinon, aujourd'hui, je serais dans un bureau en costard-cravate à me stresser toute la journée pour atteindre mes résultats, mes targets, mes résultats, etc.
Et donc, t'as fini finalement par suivre ce que tu étais, ta passion de l'image, pour développer ça.
Voilà, donc j'étais entre Oyan et Danang. J'avais mon vrai groupe d'amis, de très bons amis qui étaient à Oyan. Ma copine était à Danang, donc j'étais entre les deux. Et Oyan, si vous êtes déjà venu ici, c'est vraiment très touristique. Donc c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a énormément de tourisme. Et moi qui aimais la photo, j'étais avec mes amis en ville, on buvait du café, on voyait les touristes qui passaient avec leurs gros appareils photo. Et moi, je me promenais en ville tout seul, je faisais mes photos, et puis je rencontrais un petit jeune sympa dans la rue, un Australien, un Français, et puis on commençait à discuter, et puis je lui disais, viens, j'ai ma moto là, à 2 kilomètres de là, ils sont en train de récolter le riz là, viens avec moi, on va faire des photos, c'est génial. Puis le mec, il dit, viens, super, on y va. Et on partait tous les deux sur la moto, je l'amenais dans les rizières, parce que je connaissais très bien tous les environs d'Orian. Et puis une fois dans les rizières, je voyais qu'il savait pas vraiment se servir de son appareil. Je disais, tiens, pourquoi t'essayes pas ça, t'essayes pas ça. Et puis j'ai fait ça 2, 3, 4 fois, et puis à chaque fois, les mecs m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas un business quoi de ça? Et en fait, l'idée est venue comme ça. L'idée est venue de ma passion de la photo, de ma connaissance des environs de la campagne autour de Hoi An, mais aussi de l'envie de partager cette passion pour la photo. Et donc, c'est venu un peu comme ça, l'idée de créer Hoi An Photo Tour, prendre les gens, les amener dans la campagne, là où il n'y a pas de touristes, donc le vrai Vietnam, et leur enseigner la photo. Et donc, j'ai commencé il y a 6 ans. J'ai pris toutes mes économies. À l'époque, il me restait 600 $, je crois. J'ai dépensé 520 $ pour payer un ami pour faire mon site web et imprimer mes premières brochures. J'ai gardé 80 $ pour manger. Et donc, j'étais dans la rue avec mes brochures, Hoi An Photo Tour. Et dès qu'il y avait quelqu'un avec un appareil photo, oh, c'est hello, vous aimez bien la photo, venez dans mon tour. Les gars, ils me regardaient, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Déjà que les locaux, ils étaient en train de les harceler pour leur vendre des t-shirts. Moi, j'arrivais avec mes brochures et donc j'ai commencé comme ça à avoir un client, 2 clients, 3 clients. Et ça a directement marché parce que c'était un tour super. Les gens, ils allaient dans la campagne, ils apprenaient la photo, lever du soleil, coucher du soleil. Les gens, ils n'avaient jamais fait le lever du soleil au Vietnam. Et ça a directement marché, quoi. Et voilà.
Je trouve que ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, j'en reviens un peu à la France. La situation de l'emploi est mauvaise. On se pose souvent la question de la place. Est-ce que je suis bien à ma place? On a souvent cette recherche du sens, de la quête de sens de ce qu'on fait dans nos vies. Et toi, tu prouves, tu es l'exemple qu'on peut tout à fait, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on aime, créer son travail, créer son emploi. Hein, c'est ce que tu as fait. C'est vraiment maintenant toi, ton propre chef.
Voilà, donc mon envie, j'ai toujours la même envie. J'ai pas perdu mon envie de voyager, de visiter le plus d'endroits possible. Maintenant, c'est vraiment orienté photo. Donc maintenant, si je voyage, c'est photo. Donc je voyage avec ma femme et mes enfants, mais la plupart du temps quand je voyage, c'est pour créer des circuits pour mes tours photo dans des autres pays en Asie, donc des tours d'une semaine, de 10 jours. Mais quand je voyage maintenant, c'est photo. C'est 4h du mat, 8h du soir, tous les jours photo, 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 photo. Et l'envie, c'est vraiment de voyager, quoi. Donc j'ai rêvé d'aller en Birmanie, boum, je suis allé en Birmanie, j'ai créé un tour photo là-bas, aujourd'hui j'y vais tous les ans. Et donc toujours cette envie de voyager, de rencontrer des cultures. J'ai toujours eu aussi, quand j'étais gamin, vraiment avant de m'orienter, j'avais ce rêve d'être ethnologue. Comprendre les cultures, comprendre quel est ce dénominateur commun que chaque personne sur cette planète. Et on a tous, toutes nos cultures, on peut être tellement différentes, il y a des choses qu'on a en commun, et ça m'a toujours intrigué. Et donc pour moi, la photo, le voyage photo, c'est une manière, surtout le voyage photo, la manière dont j'organise mes tours, c'est-à-dire on va se perdre dans la campagne. Si vous voulez aller faire des photos de temples en Birmanie, mais allez-y sans moi. Nous, on va aller se paumer dans la campagne, on va aller dans les villages là où il n'y a pas de touristes, c'est-à-dire on va voir les gens comment ils vivent vraiment. Et là, on va vraiment apprendre, on va faire des photos super, on va apprendre la photo, mais on va apprendre la culture des gens, on va apprendre comment les gens vivent. Et ça, pour moi, c'est... La photo m'amène là aujourd'hui. Donc je voulais voyager pour rencontrer des cultures en tant qu'ethnologue, peut-être quand j'étais gamin. Mais aujourd'hui, je le fais, et bon, sans les outils qu'un ethnologue va utiliser, les vrais outils, les systèmes pour étudier. Mais je vais être dans un village perdu au milieu de la montagne, à faire des photos des gens et puis à dormir avec eux, à voir la façon dans laquelle ils vivent. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix.
Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est pour toi, la photo?
Super question, dis donc. Ça me fait marrer parce que quand je voyage avec mes groupes dans les autres pays, chaque fois on voyage, on essaie de rencontrer des photographes locaux. Et chaque fois qu'on les rencontre, première question que je leur pose, c'est « Et qu'est-ce que c'est pour toi la photo ?»
Voilà.
Chaque fois, ils se marrent et moi aussi, je me marre, mais là, c'est mon tour. Mais pour moi, la photo, c'est... Bon, je suis vraiment photo-photo parce que ce que je fais, c'est j'enseigne la photo. Maintenant, c'est mon activité principale. Pour moi, la photo, c'est la lumière. Pour moi, la photo, c'est la lumière. C'est pour ça qu'on se lève à 4h du mat, c'est pour ça qu'on fait le coucher du soleil. C'est la lumière. Donc, l'idée, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, quand on a la lumière, etc. La photo également, bon, outre ce qui est la composition et servir son appareil photo, mais ça, c'est vraiment pas grand-chose au niveau photo, c'est être où il faut. Être où il faut, c'est-à-dire aller là où les photos sont disponibles, là où les photos sont aussi faciles à faire. Si vous allez vous promener dans le marché de Hoi An aujourd'hui, vous allez pointer votre appareil photo, il y a 4 petites vieilles qui vont vous sauter dessus pour vous demander 1 $. ça va pas être facile de faire des photos. Aller dans la campagne, aller là où les photos sont disponibles, c'est-à-dire aller voir le vrai, l'essence du pays, l'essence de la culture. Donc pour moi, la photo, c'est plus une manière, c'est quelque chose qui va nous amener quelque part où on ne serait jamais allé si on ne faisait pas de photos. C'est complètement paumé. Si vous ne faites pas de photos, vous allez vous ennuyer. Franchement, c'est un petit village, il y a deux petites vieilles dans les champs, il y a trois enfants qui vont à l'école. Il n'y a pas grand-chose à voir. Mais en photo, en termes de photos, on va aller faire des photos de quelqu'un dans la rue qui va nous inviter chez lui à boire un thé. Puis il va nous inviter à dîner, il va nous sortir son canard qu'il a égorgé le jour même juste pour nous. Et puis il y a les voisins qui vont venir nous voir. Et puis on va partager cette expérience incroyable qu'on n'aurait jamais partagée si on ne faisait pas de photos. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est la photo qui nous amène là.
On va changer de sujet, on va sortir de la photographie. Je vais m'intéresser peut-être aussi un peu maintenant au côté interculturel de ton couple, parce que tu t'es marié avec une Vietnamienne. Peut-être parle-moi de la rencontre, comment est-ce qu'on en vient à tomber amoureux d'une femme vietnamienne?
Bon, pour tous ceux qui sont venus au Vietnam, il n'y a pas de secret, hein, les Vietnamiennes sont jolies. Donc c'est pas non plus très difficile de tomber sous le charme. J'ai rencontré ma femme il y a 5 ans et demi, 6 ans, quand je vendais encore du vin en Asie. Donc par le biais d'un ami en commun, j'organisais des wine testing, donc des testings de vin dans les hôtels, dans les resorts. Et j'invitais les managers des hôtels, des restaurants à venir participer, donc on faisait ça une fois par mois. Et on avait un ami en commun, donc elle était venue, etc. Donc je l'avais rencontrée ce soir-là, mais je n'avais pas vraiment discuté avec elle parce que je travaillais, quoi, je présentais mes vins, etc. Et un jour, on s'était revus sur Da Nang. Puis à la vietnamienne, on a bu un café, puis on a bu un café, puis on a bu un café. Et puis pendant 6 mois, on a bu du café, on a bu énormément de café, et puis on s'est mis à se connaître. Tous les deux, on a commencé à se fréquenter de plus en plus. Et puis est arrivé le moment où vraiment, comme je parlais tout à l'heure, où j'ai arrêté de bosser, où j'avais plus vraiment d'argent, mais j'avais cet amour pour la photo qui débutait. Et j'habitais, d'ailleurs, quand j'étais à Da Nang, j'habitais chez elle.
Est-ce qu'on peut ici au Vietnam habiter avec une femme ou avec un homme sans être marié? Ou est-ce que la société veut aussi que tu te maries avant de pouvoir habiter sous le même toit?
Alors officiellement, au niveau des lois, on n'a pas le droit. Si vous êtes un homme français et vous passez une nuit avec une Vietnamienne sous le même toit, même si elle dort dans une autre chambre, ça peut être vu comme de la prostitution. Donc c'est légalement pas autorisé. Après, elle habitait à Da Nang dans un appartement, les gens s'en foutent plus ou moins. C'est vrai qu'à Hoi An, il fallait faire un petit peu attention des fois, mais parce que sa famille n'est pas d'ici. Si sa famille avait été ici, ça aurait été plus difficile au niveau de la famille qu'elle dorme avec un étranger sans être mariée. Il faut être marié pour faire ça. Donc ça reste quand même une culture traditionnelle, surtout dans la campagne. Les villes sont en train de changer très rapidement. Mais elle est du Nord, elle n'est pas d'ici. Donc sa famille n'était pas là, donc ça permet plus de flexibilité aussi.
Quand on est dans un couple interculturel, deux pays, deux nationalités. Est-ce que c'est posé la question de vivre en France ? Peut-être qu'elle avait envie de quitter le Vietnam, comme toi tu as envie de quitter la France pour vivre une expérience différente.
Alors, elle n'a jamais été attirée pour habiter en France. D'une part parce qu'elle ne connaît pas vraiment, et puis ça n'a jamais été vraiment son but. Et d'autre part parce que je lui ai tellement donné une mauvaise image de la France et de la situation en France que ça ne lui donne pas envie. On est allé en France déjà, avec les enfants. Elle aime bien la France, c'est bien, c'est sûr qu'on mange bien, hein, sur la terrasse, dans le sud de la France, l'été, à faire du barbecue. C'est pas mal du tout. Mais elle adore le Vietnam, c'est son pays. Ça la dérangerait pas d'habiter ailleurs, mais elle n'est pas vraiment attirée par les pays occidentaux, forcément. Elle a envie d'habiter là où on aurait une belle qualité de vie. Donc ça n'a jamais été vraiment une question. Elle sait que moi, ma vie est ici. Elle sait que maintenant, mon business est ici. Elle sait que ma passion, c'est la photo. Ma passion, c'est la photo en Asie. Parce que l'Asie, c'est vraiment... c'est les gens. On va voir les gens. On va faire un peu de paysage en Asie. Mais c'est vraiment les gens, quoi. C'est les sourires des gens, la façon de les approcher, comme les gens sont amicaux. Donc, elle sait que ça, c'est là. Donc, tant qu'on est heureux, tant que la famille est heureuse, qu'on a une belle qualité de vie, ma femme, elle n'a pas vraiment envie d'aller dans un endroit... elle a envie de voyager énormément. Donc, vraiment, on attend que les enfants soient plus grands. Elle a envie de voir le monde, forcément, et moi aussi. Donc, ça, très bien, ça, on va bien. On s'entend bien là-dessus. Mais là, les enfants sont très jeunes, donc on met ça un petit peu en stand-by pour le moment. Puis dès que les enfants seront plus vieux, on va énormément voyager tous les deux. Donc on pourra voir le monde et puis on va passer pas mal de temps en France, je suppose, dans le futur.
Chouette, donc il y a aussi cette envie des Vietnamiens de s'ouvrir sur le monde, de voyager, de partir, d'aller à l'étranger, de voir comment ça se passe ailleurs.
Exactement, donc le Vietnam est un pays qui est sorti il y a 20 ans, qui est sorti de 30-40 ans de communisme. Les gens ont beaucoup souffert, il n'y avait pas beaucoup à manger, il n'y avait pas d'argent. Donc les gens sortent de deux guerres, de 30-40 ans de communisme. Aujourd'hui, ils ont envie qu'une seule chose, c'est de s'ouvrir. Ils ont passé 40 ans, le pays était fermé, il n'y avait pas d'étrangers. Maintenant, les étrangers viennent, ils ont envie qu'une seule chose, c'est de parler anglais, de rencontrer les étrangers, de voyager, d'adopter cette façon de vivre qu'on a à l'occidental, ce qui est d'ailleurs un petit peu triste, mais voilà, les gens veulent un iPhone aujourd'hui, ils veulent avoir une voiture, ils veulent une belle maison, ils veulent habiter dans un gratte-ciel qui brille. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ben, c'est pareil ici, les gens ont envie de vivre un petit peu plus à l'occidental. Donc il y a cette chose aussi au Vietnam, on peut arriver dans la campagne. Ma belle-mère, la mère de ma femme, son père a été fusillé par les Français. 3 jours après, sa mère a été fusillée par les Français. J'arrive chez elle pour la première fois, je rentre. Elle avait entendu parler moi forcément, elle savait que j'étais Français. Elle m'accueille les bras ouverts, elle dit « Viens mon fils, rentre, viens, j'ai préparé un canard, on va le manger, on va se régaler. » Les Vietnamiens ont cette flexibilité, cette attitude à être complètement tournée vers le futur aujourd'hui. Ils ont tellement de malheurs qui s'est passé dans le passé. Ils ont vécu tellement de choses difficiles et douloureuses. Aujourd'hui, c'est le futur. Et j'ai jamais eu, pas une seule fois, quelqu'un dans la campagne, même profonde, qui me dit « Ah, t'es français, ah, je déteste les Français, etc. » Ils savent que c'est pas moi qui suis venu ici à 60 ans et qui ai tué des gens. C'est le passé. Voilà, le présent, c'est le futur. Donc aujourd'hui, c'est bien, demain, ça va être encore mieux.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Malheureusement, chers auditeurs français, j'ai commencé la photo, j'ai enseigné la photo ici à beaucoup d'anglophones. Donc, tout ce que j'ai en ligne est en anglais. Mais j'ai un site internet, Pics of Asia, donc P-I-C-S-O-F-A-S-I-A, donc Pictures, les photos d'Asie, Pics of Asia, où j'enseigne la photo. Donc j'ai beaucoup de galeries photo ici, j'enseigne la photo, j'ai des articles photo, et c'est aussi le site que j'utilise pour présenter mes tours photo que j'organise en Asie du Sud-Est. Évidemment, je suis sur Facebook, etc., les réseaux sociaux. Nouveau à Instagram, je me régale avec Instagram. Mais bon, j'ai beaucoup de photos en ligne et moi vraiment ce que je fais aujourd'hui, je partage, hein. Il n'y a pas de secret en photo, je partage, j'écris beaucoup d'articles en ligne, donc si jamais vous aimez les belles images ou si vous parlez anglais, n'hésitez pas. Merci à toi Alex.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.